20h passées de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du forum de Studio Kalungu. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bilan des résultats des examens de fin d'année 2023-2024, c'est le thème du forum de ce soir. Au Niger, les résultats globaux officiels des examens de fin d'année 2024 sont connus. Ainsi, pour le BEPC, l'on note un taux de réussite de 37,56% alors qu'il était de 57,47% en 2023. Pour le baccalauréat, le taux de réussite est de 32,9%, un taux en hausse par rapport à celui de 2023 qui était de 25,6%. Le certificat de fin d'études de premier degré et le certificat d'études primaires élémentaires franco-arabes ont enregistré un taux de réussite de 41,54%. Alors, quelle analyse faut-il faire de tous ces chiffres? Quel bilan dresser de l'année écoulée qui a produit ces résultats? Et quelle perspective pour la prochaine année académique 2024-2025? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio El Hadj Idi Abdou. Il est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation. Bonsoir. Monsieur Bizo Moussa, il est le président de l'ASSO EPT, la coalition nigérienne des associations et ONG de campagne éducation pour tous. Bonsoir.
Bonsoir.
L'USN, l'Union des scolaires du Niger invité, n'a pas répondu à notre invitation. Je suis Nefis Adam Sirfa, la modération. Merci donc, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Je commence avec vous, monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation. Alors, les résultats sont donc officiels et connus. Nous commençons donc avec le CFPD. Le CFPD, le certificat de fin d'études du premier degré, réinstauré cette année après plusieurs années de suspension. Alors, comment se présentent d'abord les résultats du CFPD à l'issue des examens qui se sont tenus du 24 au 25 juin 2024?
Bien, merci Madame Nafissa. Permettez-moi nous d'être juste et équitable. Nous avons organisé 8 examens. Et je voudrais remercier toute la communauté éducative, notamment les enseignants qui ont été très compréhensifs, qui étaient inscrits dans la dynamique de la refondation. Et évidemment, on avait observé une année très calme du fait des enseignants, de la sagesse des enseignants et de la sagesse de l'Union des scolaires nigériens, ainsi que tous les autres partenaires de l'école qui ont apporté leur contribution dans l'accalmie qui a caractérisé cette année scolaire. Et dans tous les cas, certains résultats s'expliquent par cette accalmie-là. Donc, le premier examen que nous avons organisé, c'est le CQP. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle qui caractérise les centres de formation au métier. On a enregistré 7417 admis sur 8134 candidats, soit un taux de 91,19%. Le deuxième, c'est le brevet d'études professionnelles, c'est toujours dans l'enseignement technique, qui caractérise les CET et les CFPT. Donc, ce taux-là des CFPT est 5284 admis sur 8365 candidats, soit un taux d'admission de 63,17%. Le brevet du premier cycle, d'études du premier cycle, le BEPC, session 2024, sur 115 623 candidats, nous avons 43 423 admis, soit un taux de 37,56%, vous l'avez rappelé. Le deuxième, c'est le diplôme d'aptitude pour la formation permanente et l'alphabétisation, DAFPA, session 2024, sur 108 candidats, 107 sont admis, soit un taux de 99,07%. Le certificat de fin d'études du premier degré CFEPD et le certificat d'études primaires élémentaires franco-arabes, CEPE franco-arabes, sur 140 000, on a 140 851 admis sur 339 000 0,39 candidats, soit un taux aussi, vous l'avez rappelé, de 41,54%. Oui. Le certificat d'aptitude professionnelle, c'est dans l'enseignement technique. Il caractérise ou il sanctionne les études au niveau des collèges d'enseignement technique. Et sur 7067 candidats, 5189 sont admis, soit 73,43% de taux d'admission.
Mmh.
L'examen de certificat de fin d'études d'école normale d'instituteur, ici sur 2510 candidats, on a 2328 qui sont admis. Et le dernier examen, c'est le certificat d'aptitude pédagogique de la section spéciale de l'école normale. Sur 5 candidats, il y a 2,5, soit un taux de 40% de taux d'admission. Donc voilà
les différents résultats
des différents examens.
Mmh.
Qui ont sanctionné l'année scolaire 2023-2024 au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales.
Et donc, tous ces chiffres que vous venez de donner, quelle comparaison pourrait-on faire à l'année précédente, avec l'année précédente? Est-ce qu'il y a des hausses ou bien c'est en baisse?
Bien, quand on prend ce qu'il faut retenir, c'est l'accalmie qui a caractérisé l'année. Et cette accalmie a fait que les programmes ont été couverts à 100%. Et du coup, c'est vrai, nous n'organisons pas le bac, même si un rapport de force a fait que ce sont nos élèves, c'est nous qui les enseignons. Malheureusement, ce n'est pas nous qui organisons ces examens-là. C'est comme si on dit, vous êtes qualifié pour enseigner, mais vous n'êtes pas qualifié pour évaluer. Maintenant, vous avez vu le taux a augmenté pour le bac, parce que l'année a été calme, très calme. Il n'y avait pas eu de perturbation. L'année passée au BEPC, on avait repêché des gens qui avaient 7.
Effectivement, on a fait repêchage.
Cette année, nous avons respecté les textes. Et les textes disent 8.
Donc cette
Et
année,
on s'est conformé au texte. Nos examens ont été propres et conformes au texte parce que nous voudrons savoir le niveau réel de nos élèves. C'est ça.
D'accord. Alors, parlons du certificat de fin d'études du premier degré qui a été restauré cette année après plusieurs années de suspension. Est-ce qu'aujourd'hui, vos objectifs sont atteints en réinstaurant cet examen?
Vraiment, on est très satisfait parce que je vous ai dit la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits. C'est cette dynamique des examens propres qui vont refléter le vrai niveau de nos élèves. Le premier objectif, c'est le niveau qui a été relevé. Si vous vous souvenez, ici à Niamey, pratiquement à quelques 2 mois des examens du CFEPD, chaque semaine presque, les écoles font des examens blancs. Et Dieu merci, on avait un mois pour organiser cet examen parce qu'on a eu le feu vert pour l'organiser. Parce que le budget de cet examen n'est même pas prévu dans le budget national. Ça nous a permis de rappeler les valeurs qui incarnent l'éducation, les valeurs de mérite.
Merci donc pour toutes ces précisions. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner donc la parole à notre deuxième invité, M. Bizot. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition ASSO-EPT. L'année donc, 2023-2024 s'est écoulée avec des résultats, que ce soit au niveau du CFPD, le BEPC, le baccalauréat. Au niveau de votre côté, quelle lecture faites-vous des résultats de cette année?
Bien, merci donc pour cette opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur le résultat des examens. Je vais vraiment vous remercier pour cette chance que vous nous donnez de débattre de ce sujet aussi important. Et par rapport aux résultats, la lecture que nous faisons, pour rappel, vous savez, la coalition ASSO-EPT Niger, c'est une coalition qui œuvre pour la qualité de l'éducation au Niger. Notre plaidoyer est centré sur la recherche de cette qualité, une éducation pour tous. Et je pense pour le résultat, pour revenir à votre question, Je vais d'abord saluer vraiment le ministère des tutelles, notamment le ministère de l'Éducation. Pour d'abord le premier examen, le secrétaire général adjoint est venu de vous parler de 8 examens. Moi, je vais m'attarder sur 3 principalement, le CFPD, le BPC et le BAC. Pour le CFPD, il faut bien le préciser. Nous faisons partie du comité, personnellement moi, du comité qui a fait l'analyse de pour la réinstauration du CFPD. Mais ce qui est surprenant pour nous, c'est le fait que le ministère puisse quand même organiser ce CFPD là cette année. Je vous l'avoue, moi j'étais franchement dubitatif parce que pour les conditions qui doivent être réunies et organiser cet examen, ça a été pour nous une surprise. Maintenant, par rapport aux résultats, ça aussi au niveau de cet aspect du CFPD, puisque les enfants, comme j'ai eu à le dire, pour être un peu logique sur mon raisonnement, les gens, même les responsables académiques, en tout cas les directeurs d'école et les parents, étaient très, très inquiets par rapport voilà, aux résultats auxquels les enfants vont parvenir.
Puisqu'ils ont été pris de court. Effectivement, en plein l'année.
Donc, malgré tout, je pense vraiment qu'on doit se féliciter du fait qu'on est arrivé à un résultat quand même. On ne peut pas dire qu'on est satisfait totalement, mais quand même, en grande partie, je crois que ça répondit à l'attente des uns et des autres. Le BPC aussi, c'est pareil. Cette année, vous l'avez si bien rappelé, le taux était de 37,56. Mais je dois préciser, pour répondre à une question que vous avez posée au secrétaire général, et comparativement à l'année passée, le taux était de 57,47.
Oui.
À première vue, on va dire que c'est un recul. Mais nous, puisque pour être toujours dans la logique de mon raisonnement, il faut d'abord voir quels sont les différents aspects qui ont concouru
à cette
baisse du taux.
Oui.
Le premier aspect, d'abord, ce qu'il faut se dire, nous l'avons fortement apprécié, c'est les conditions de dépistage qui n'ont pas été reconduites. C'est une très bonne chose. Si nous voulons à ce que nos enfants puissent être vraiment des gens qui vont prendre l'avenir de notre pays dans le futur, nous devrons leur donner l'exemple. En tout cas, à suivre.
Donc, à vous comprendre, cette question de repêchage ne devrait pas avoir...
Ce n'est pas forcément ça. Si nous arrivons à ancrer dans l'esprit de nos élèves qu'il n'y aura pas de repêchage, l'important, c'est qu'on s'entende sur une moyenne, que ce soit au niveau de l'oral ou de l'écrit, pour donner la chance à tout un chacun de le faire. Généralement, le repêchage, on peut le faire dans des cas, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais on le fait le plus souvent dans les cas où l'État ou le ministère de tutelle se retrouve dans une position d'incrimination, peut-être par rapport aux programmes qui ne sont pas exécutés, par rapport à certaines calamités, on ne le souhaite pas, par rapport à certaines en tout cas, perturbations qui n'ont pas permis de finir le programme. Je peux vous rappeler, en 91, si j'ai bonne mémoire, on a repris les bacs pour faire la deuxième session. Tout ça, c'est des dispositions qui peuvent venir, mais il faut que cela soit justifié. Les SGA l'a rappelé, la CIBER a rappelé, cette année, l'école s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de perturbations.
Il y a eu vraiment une accalmie.
Voilà, il y a une accalmie totale, que ce soit au niveau des scolaires ou au niveau des corporations syndicales des enseignants. Il n'y avait pas eu de perturbations. Donc, pour nous, cet aspect de repêchage, même s'il n'a pas été pris en compte par les ministères, ne peut pas être l'objet quand même d'une baisse ou bien d'inquiétude au niveau des parents. Le deuxième aspect, pour rappel, l'année dernière, jusqu'à 16 points qui ont été, on a repêché jusqu'à 16 points. C'est beaucoup. Quelle est la valeur qu'on peut donner à un diplôme ou on donne à un élève? C'est en ce sens que j'ai dit, il faut d'abord mettre l'accent sur la qualité. Le plus souvent aussi, les épreuves. Les gens, puisque leur objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des résultats gonflés. Qu'on dise que tel ministre a fait un résultat meilleur que les présidents. Personne ne voudra un résultat qui est en deçà de celui. Comme si les résultats, là, c'est pour lui-même et non pour l'État. Or, il faut se mettre dans une posture, même si c'est 5% qu'on arrive à avoir, c'est notre système éducatif. L'important, c'est quoi? Ça, c'est... et qu'on trouve des mesures qu'ils vont faire, des mesures idoines pour remédier à cela. Cette posture aussi, du fait que vraiment il y a pas, les épreuves n'ont pas été encore très souples comme on le pense, parce que le plus souvent aussi, même dès les choix des sujets, les sujets qu'on donne, quand vous les lisez par le passé, vraiment vous savez vous-même que c'est un peu gênant qu'on dise que ce sont des sujets qui sont à la hauteur des élèves.
Donc ce sont des sujets qui ont été vraiment...
En tout cas, sous-traités, moi je dirais sous-traités parce qu'elles ne répondent pas à l'aspiration, en tout cas à la valeur qu'on cherche d'un candidat qui se présente à l'examen qui a un cours réglementaire.
On évalue des candidats par rapport à ce qu'ils ont fait. Et les sujets qui ont été donnés, c'est des sujets conformes au programme.
on évalue les élèves. Normalement, on évalue quelqu'un sur ce qu'il a fait. Mmh. Et Dieu merci, les programmes ont été couverts. Et du coup, si vous avez regardé, personne n'a soulevé une partie d'un sujet qui est hors programme. Mmh. C'est ça l'essentiel. Parce que nous, on n'avait pas ce souci comme M. Buse disait. Non, nous n'avons pas le souci du nombre, mais on a le souci de la qualité.
De la qualité, oui.
Parce que nous avons la responsabilité, c'est dans la lettre de mission de la ministre, de rétablir l'autorité de l'enseignant. Mmh. Rétablir l'autorité de l'enseignant, c'est aussi lui laisser l'exclusivité de l'évaluation. Mmh. Vous voyez, en fait, les repêchages étaient prévus, les textes ont prévu, mais les années antérieures, on ne respecte pas les propres textes.
Oui, justement, expliquez-nous aujourd'hui comment se passe même cette question, le repêchage. Comment
si le texte a encadré, le premier groupe, si vous avez 8, de 8 à plus et inférieur à 10, vous êtes admissible. Maintenant, de 10 à plus, c'est le premier groupe, vous êtes admis. Mais c'est ça les textes, on dit de 8 à plus. Les années antérieures, politiquement, on fait de 7. Or, 7 n'est pas dans le texte. C'est 8. C'est de 8 à plus qui est dans le texte.
Alors, parlant du baccalauréat, M. Bizot, l'on note cette année une amélioration nette par rapport à 2023 avec une augmentation de 7,3% du taux de réussite.
Par rapport au baccalauréat, je pense, comme vous l'avez aussi souligné, il y a eu une hausse par rapport au taux d'admission. Je crois que ça rentre dans la même logique du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale. C'est pour toujours promouvoir la qualité de l'enseignement au niveau du secondaire, puisqu'un dispositif a été mis en place. Je pense que nous, en tant qu'observateurs de la société civile, nous avons noté avec satisfaction l'absence de fraude. Et vous savez, le plus souvent, nos examens, chaque année, ce qu'on reproche à nos examens, c'est que ce ne sont pas des examens propres.
Avec des fuites.
Avec des fuites, des sujets, des fois, même sur le marché, vous pouvez trouver des sujets. Et cela a fait en sorte que les enfants sont le plus souvent démotivés. Parce que chacun s'attend à ce qu'il y ait une fuite. Au lieu que les enfants puissent apprendre tout au long de l'année, se préparer aux examens de fin d'année, ils s'adonnent plus à ce genre de conjectures, puisque pour eux, le plus souvent, qui a un ami ou bien une connaissance qui pourra avoir des sujets pour traiter. Et là, ça ne met pas le pays dans une position vraiment de faire de ses élèves des meilleures élites pour le futur parce qu'on les habitue à des questions de fraude.
Oui, mais avant même l'organisation de ces examens, vous, en tant qu'acteur de la question de l'éducation, à combien vous estimez le taux d'exécution des programmes scolaires? Est-ce que tout était fait prêt, vraiment? Les élèves étaient prêts, les enseignants, selon vous?
Oui, a priori, je pense que nous l'avons tout de suite dit avec le VPC, puisque l'année a été calme. Et on n'a noté aucune perturbation, que ce soit de la part des élèves ou de la part des enseignants. On ne peut que parler, même si on dit que les taux ont été examinés, les cours ont été, en tout cas, on peut être acheminé à 100%, achevé à 100%. Personne ne peut nier cela.
Et parlons donc des examens, même, est-ce que vous n'avez constaté aucun manquement durant le processus
Nous n'avons pas, en tout cas, on ne peut pas dire que tout est clair, parce que dans toute œuvre humaine, il faut penser qu'il peut avoir, en tout cas, des manquements. Ici, le plus souvent, ce qui est pointé du doigt, c'est la question des réclamations. Parce que le plus souvent, les enfants et les parents n'ont pas la chance pour des élèves qui échouent qu'ils puissent réclamer aussitôt. Je crois que c'est une disposition. Peut-être les SGA est là devant nous, il peut porter notre voix. Nous aimerions vraiment qu'on mette chacun dans une position ou qu'il s'assume par rapport à son résultat. Qu'on permette, qu'on crée des conditions pour que, à la sortie des examens et des résultats des examens, que des élèves qui estiment être en mesure d'être admis ou qui doutent par rapport à leurs résultats, qu'ils aient accès à leurs différentes notes pour faire la confrontation. Le second aspect, peut-être qu'on peut un peu évoquer par rapport à la question, c'est que le plus souvent, ce qu'on incrimine, c'est les rapports entre les épreuves qu'on fait sortir et les programmes qui sont enseignés. Et je pense aussi que ça, il y a eu déjà une avancée parce qu'il n'y a pas eu de critiques par rapport à cet aspect-là. Un manquement qu'on a constaté aussi, qu'il y a heureusement, était très vite corrigé, c'est par rapport au correcteur. Mm-hmm. Puisque là, au début, il semblerait qu'il y avait des correcteurs qui n'étaient pas, normalement, qui ne devraient pas être sur les listes des correcteurs au niveau du bac. Et avec la dénonciation, je crois, le ministère a vite pris des dispositions. Mm-hmm. Cela a pu être corrigé. Les examens, que ce soit au niveau du CFPD ou au niveau du bac, vraiment, cette année, nous pensons, nous allons prier Dieu pour que la même allure, en tout cas, les mêmes comportements qui ont été constatés cette année puissent vraiment être constatés pour les années
D'accord.
à venir.
Alors, l'année académique 2023-2024 a été vraiment une année calme avec des résultats assez satisfaisants selon l'asso EPT. Monsieur Idi, secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation, tout au long du déroulement de ces examens à la sortie des résultats, quelles sont peut-être les difficultés auxquelles vous avez eu à être confronté?
Bon, vous savez, c'est une affaire de conviction et on croit. Monsieur Buse l'avait souligné, beaucoup ne pensaient pas que c'est possible. Parce que d'abord, l'allocation budgétaire relative au CFEPD n'était même pas inscrite. Dieu merci, encore je remercie le président du CNSP qui a prêté une oreille attentive et on a eu ces fonds. En dehors des autres examens, mais cet examen de CFEPD et CEPE franco-arabe, mais on l'a organisé dans un mois de l'espace, d'un mois. Mm. Ben, écoutez, quand on croit et quand on a la volonté, tout est possible. Et le ministre, la ministre avec tout le staff et tous les cadres associés, mais on s'est donné pour organiser cet examen-là qui avait disparu il y a plus de 10 ans. Et Dieu merci, c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, mais c'est satisfaisant ce qui s'est passé quand même. Et là, pour dire, les réclamations sont autorisées. C'est autorisé, je me souviens, ça doit être dans le département de Tanout, où quelqu'un a fait une réclamation et s'est retrouvé premier du centre. Voilà. Non, nous, on a... Vous savez, notre logique, c'est le respect du texte. Et les textes au BEPC ont permis, c'est une journée. Maintenant, il arrive qu'il y en a qui me connaissent ça. Mais ceux qui ne me connaissent pas, c'est une journée. Si on proclame aujourd'hui, il y a une journée pour faire la réclamation.
Au-delà de une journée.
Oui, vous avez une journée. Mmh. C'est comme ça. Mmh. On vous donne un délai. Parce que quand vous prenez le BEPC, il y a un second groupe aussi.
Oui.
Donc, vous avez une journée pour faire la réclamation. Mm-hmm. Si vous faites la réclamation dès le dé, elle sera examinée. Et on a dit les conditions. Donc là, il va falloir un peu vulgariser les textes. Oui. Il y en a qui... bac, là, je ne peux pas me prononcer. Là, je ne peux pas me prononcer. Mais tous les examens, les 8 examens, que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion de langue a organisé, s'est permis de réclamer et les gens ont réclamé. Et on a donné suite. Maintenant, le bac, c'est un autre échelon. Ça, je ne maîtrise pas. Mais pour ce qui est de notre cas, il y a eu des réclamations et les gens ont fait des réclamations et on a donné suite à leurs réclamations. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
D'accord. Merci bien. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons donc des résultats des examens de l'année académique 2023-2024 au Niger. Et nous débattons de cette thématique dans ce studio avec M. Elhadj Idi Abdou, le secrétaire adjoint général adjoint du ministère de l'Éducation, et M. Bizo Moussa, le président de la coalition ASSO-EPT. Alors, je reste toujours avec vous, Elhadj Idi. Aujourd'hui, avec tous ces résultats, qu'est-ce que vous préparez pour les nouveaux admis du CFPD, du PPC pour l'année prochaine?
Bon, le programme, déjà, le mécanisme est déjà mis en marche. Et les commissions d'orientation sont en train de se tenir, sinon certaines, c'est fini. Donc, le dispositif est large. Ceux qui sont admis, ils ont une panoplie de choix. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il y a l'enseignement général, ceux qui peuvent aller dans les collèges. Il y a ceux qui peuvent aller dans les CET. Mm-hmm. Donc, dans le cadre de l'enseignement professionnel. Ici, il n'y a aucun choix. Le dispositif est pris. Il est déjà mis en œuvre et il n'y a aucun souci. La suite est très claire par rapport à ceux qui sont admis.
Et les dates de la prochaine rentrée scolaire sont déjà connues?
Oui, et surtout, on a déjà engagé la préparation, on est en plein dans la préparation de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, vous savez, au Niger, c'est en octobre, on sait, sauf cas de force majeure. Donc, en principe, le 2 ou la première semaine du mois d'octobre, c'est la rentrée, et la rentrée aura lieu, Inch'Allah, parce que nous sommes déjà dans les préparatifs.
Donc, le 2 octobre prochain, ce sera la rentrée, que ce soit pour les collégiens, les lycéens.
Inch'Allah, d'accord. Si tout va bien, la rentrée aura lieu, on espère qu'elle aura lieu. Mm-hmm. Et en tout cas, du point de vue organisation matérielle au niveau du ministère, tout est en train d'être mis en œuvre pour que la rentrée soit. Parce que, vous savez, pour la qualité de l'éducation dépend beaucoup du temps scolaire. Et c'est notre souci de ne pas grignoter le temps scolaire et de faire la rentrée comme prévu et de créer les conditions pour que le temps au niveau du déroulement de l'année ne soit pas grignoté. Mmh. Donc, je vous assure que le ministère est en train de mettre tout en œuvre pour que cela soit.
D'accord. Donc, pour l'année 2023-2024, monsieur le secrétaire général, vous l'avez notifié que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Qu'en est-il des zones d'insécurité?
Bien, merci. Vous avez vu, on avait ouvert même certains établissements dans les zones d'insécurité. Et tous ces examens-là ont eu lieu dans les zones d'insécurité. Il n'y a pas un centre qui n'a pas fonctionné sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas un centre qui n'a pas fonctionné. Et Dieu merci, c'est même une occasion de remercier aussi le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Défense, vous savez, dans le dispatching, dans l'acheminement des épreuves, vraiment, on a fait recours à l'armée de l'air. La sécurisation et surtout le transport aussi. Oui. Et je vous dis, tous les centres concernant tous les 8 examens à travers l'étendue du territoire, ils ont fonctionné. Il n'y a aucun centre qui n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Tous les centres, la multitude des centres ont fonctionné et ont été sécurisés. Mm-hmm. Vous avez suivi, il n'y a jamais eu d'incident. Donc, vraiment, ça fait partie des efforts quand même qu'ils font. Que cette année-là, vraiment, on a été très fiers de ce qui s'est passé, malgré, effectivement, ces menaces-là. Dieu merci, l'État s'est assumé.
Merci bien.
Et l'État a pu sécuriser tous les centres, et tous les centres ont fonctionné. D'accord. Et ça a été équitable. Tout le monde a composé, quelle que soit la région où il est.
Alors, pour la prochaine rentrée scolaire 2023-2024, les dates sont connues, le 2 octobre probablement. Alors, Bizo, vos attentes d'abord?
Nous, nos attentes, c'est d'abord vraiment de continuer la collaboration. Parce que nous sommes là en tant qu'organisation de la société civile, mais nous avons tous les mêmes objectifs, puisque nous avons notre pays, le Niger, que nous devrons promouvoir. Et en ce sens, je pense que les attentes, c'est d'abord de continuer cette collaboration, de nous donner la main dans la main pour que vraiment tout ce qui peut constituer un frein à l'essor de notre système éducatif, ensemble, qu'on puisse vraiment juguler ces difficultés. Vous savez, nous sommes dans un contexte, nous le rappelons chaque fois, de souveraineté nationale. Et je pense, en ce sens, pour avoir la vraie souveraineté, il n'y a pas meilleure voie à suivre que l'éducation. Aujourd'hui, tous les États du monde les plus développés jusqu'aux plus faibles, en tout cas, en commençant d'abord par les plus développés, ils ont d'abord mis l'accent sur l'éducation. Et c'est en ce sens, peut-être, le souhait, c'est d'abord que ce ministère, en tout cas les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation, notamment jusqu'au niveau supérieur, qu'ils puissent encore avoir un regard assez positif, plus élargi, je dirais, au niveau des plus hautes autorités pour que vraiment cette mission qui est régalienne, la mission de l'éducation de l'État puisse vraiment être atteinte.
Parlons de votre association. Vous militez pour une meilleure éducation à tous. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour un meilleur accès à l'éducation à
tous? Le meilleur travail que nous faisons, c'est d'abord les plaidoyers. Nous menons les plaidoyers envers tous les acteurs, en tout cas qui interviennent dans la chaîne éducative. Nous appuyons l'État à travers nos partenaires, je parle de partenaires techniques et financiers, puisque toutes les actions que nous faisons, que ce soit axées sur les élèves, sur les enseignants, puisque nous faisons des formations pédagogiques et des formations continues aux enseignants, à travers donc des ateliers, des formations que nous organisons. D'ailleurs, même la portion centrale, puisque je me rappelle, nous faisons aussi des formations à l'endroit des cadres du ministère de l'Éducation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la question genre et bien d'autres thématiques que nous développons. Et toutes ces actions, nous les faisons parce que pour nous, c'est d'abord fondamentalement pour améliorer la qualité de l'éducation. Et dans presque toutes les régions du Niger, notre coalition ACEPT intervient, en tout cas en dehors, je crois, particulièrement de la région d'Agadez, où nous sommes en train de nous atteler encore, puisque ça dépendra de plus souvent de zones d'intervention des projets. Mais globalement, dans toutes les régions, que ce soit en termes de cette question que vous venez d'évoquer, la question de sécurité, puisque nous faisons la prise en charge des enfants qui vivent aussi dans des zones d'insécurité, notamment à travers la continuité pédagogique, à travers l'enseignement par la radio et bien d'autres mécanismes qui vont permettre, en tout cas, à ces enfants aussi d'avoir cette continuité de l'éducation. Mmh. En tout cas, nos actions sont des actions qui sont consignées dans la politique de l'État.
Oui, mais sur le terrain aujourd'hui, est-ce que vous pensez que réellement la qualité de l'éducation y est?
La qualité, sans passer par la langue des bois, elle n'était pas comme prévu, parce que même le ministère le reconnaît. Aujourd'hui, je pense que l'objectif premier de ces ministères, c'est d'avoir cette recherche de qualité. Vous savez, la qualité, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Mmh. Un système qui a connu des déboires pendant plusieurs années. Rappelez-vous de la période de l'éducation pour tous, où on a parlé de la scolarisation plurielle universelle, où l'État a pris des engagements auprès des partenaires internationaux en 2015, après donc la rencontre de Dakar. On était dans l'obligation, chacun disait qu'il va, à l'échéance de 2015, qu'il n'y aura pas un enfant qui va atteindre l'âge d'être allé à l'école et qu'il soit à la maison. Ces engagements, nous l'avons, l'État l'a pris par le passé, sans tenir compte des difficultés financières auxquelles les pays est confronté, et notamment la question même des viviers, puisque les enseignants manquent. Et c'est ça qui a fait qu'on a recruté des enseignants, je ne vous apprends rien, qui n'étaient pas à mesure, en tout cas qui ne connaissent rien de l'enseignement. Même ceux qui ne sont pas des diplômés, qui n'ont aucun diplôme, ont été pris. C'est pour vous dire que tous ces aspects, il y a plein de mécanismes qui ont fait en sorte que notre système a pris un coup. Et pour la recherche de la qualité, comme j'ai eu à l'aider, c'est un processus. Et nous venons de l'aider tout de suite à travers l'organisation de ces différents examens. Le processus est en train de suivre son cours. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr, dès cette rentrée, que ce soit les parents d'élèves et les élèves, chacun va céder, il n'y a que l'effort personnel qui paye.
Effectivement.
Et c'est ça qui fera en sorte que notre pays puisse avoir des élites, qu'ils sortent des charnières, et qu'ils sortent en tout cas de tout ce que nous connaissons comme frein à l'histoire de cette éducation.
D'accord.
Maintenant, peut-être avec votre permission, moi, c'est l'occasion, je vais profiter d'un des aspects. Le SGA a parlé de la formation professionnelle. Quand vous faisiez allusion à l'orientation des élèves, moi, je pense qu'on a encore beaucoup à faire par rapport à la formation professionnelle. Parce que c'est un point qui est malheureusement négligé par les parents et même des fois par les bénéficiaires. Aujourd'hui, moi, je suis au regret de constater à chaque fois, même pour une petite réparation de notre porte, il faut qu'on fasse appel à un étranger, que ce soit en termes de réparation, de robinets, l'électricité, tout. Je pense qu'on doit mener beaucoup de sensibilisation pour que les parents se disent que la formation professionnelle, c'est une alternative, en tout cas, à tout ce qui peut constituer encore un blocage par rapport à notre développement.
D'accord. Alors, Elhadj Idi, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet aspect, bien avant même la qualité de l'éducation, qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère pour vraiment atteindre cette qualité et aussi promouvoir la formation professionnelle, comme l'a dit
Bizou. Oui, M. Bizou a raison. Et vous voyez, connaissant le cliché qui entoure la formation professionnelle, vous avez vu, on a organisé une exposition des produits issus des centres de formation. Une grande partie quand même de l'opinion à Niamey est au courant et ils ont découvert
la merveille. Parce que les gens ne pensaient pas que ces élèves sont capables de faire ça là. On n'en a pas besoin. Et vous voyez, il y avait 30 salles de classe qui ont été construites grâce à l'activité civilo-militaire. Et ces classes ont été équipées par les élèves de nos centres. Donc, on fait la visibilité et on crée les conditions pour faire tomber les clichés. Parce qu'en réalité, il n'y a point de développement sans enseignement technique et formation professionnelle. Ça n'existe pas. C'est ça le développement, il faut produire. Et du coup, on a mis un accent très particulier dans la visibilité et on est en train de créer les conditions pour faire tomber le cliché qui est un obstacle à l'épanouissement de l'enseignement professionnel. À travers l'exposition, à travers un certain nombre de choses, nous sommes en train de démontrer ce que font ces apprenants-là et ce que les gens ne savaient pas. Et nous allons continuer dans cette logique pour rendre visible ce qu'on fait et pour interpeller et démontrer l'importance de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle pour le développement d'accord. d'un pays. Et surtout, vous savez, notre nouvelle dynamique met l'accent sur le développement endogène. Et c'est à ce sens-là, la qualité de l'éducation est inscrite dans une très bonne place dans la lettre de mission. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, le problème de l'école ne date pas de la 7e République. Si vous vous souvenez, notre démocratisation, elle tire son sens d'où? Les étudiants qui étaient morts sur le pont, c'était la question de l'école, c'est la question de la qualité qu'ils ont posée. Donc, c'est le problème de l'école qui a eu une implication certaine sur la démocratisation. Depuis ce temps-là, notre école est dans cette situation-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maintenant et tout de suite avoir. On parle de l'éducation.
Vous venez de le dire que cette question de qualité est inscrite dans votre cahier de charges. Qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les perspectives pour la prochaine année ou bien les prochaines années à venir?
Bien entendu, c'est réhabiliter d'abord l'autorité de l'enseignant. Parce que le pilier, c'est l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit initialement formé, encadré, et nous sommes en train de créer les conditions pour réhabiliter l'autorité de l'enseignant, que l'enseignant maîtrise ce qu'il fait. Parce que l'autorité de l'enseignant passe par la maîtrise de ce qu'il fait. Deux, créer les conditions acceptables. L'encadrer. Et ça, nous sommes en train de prendre des mesures au niveau du ministère pour réhabiliter cette autorité de l'enseignant. Deuxièmement, mais l'organisation propre des examens et le fait de les organiser conformément au texte, c'est en fait pour mettre en œuvre cette quête de qualité. C'est de cela dont il s'agit. Et nous sommes plus que jamais engagés dans ça. Monsieur Buzel l'avait souligné, et c'est le message que nous voudrons que tout le monde comprenne. À partir de cette année, s'agissant de l'éducation et de la formation, il n'y a que l'effort qui paye. Les raccourcis là, où on atteint une fuite, c'est fini ça. Donc, dès la rentrée, parents et élèves se préparent. Il n'y a que l'effort qui peut payer. En dehors de l'effort, il n'y a rien d'autre. Les raccourcis, d'accord. C'est fini.
D'accord. Il n'y a que l'effort qui paye. Alors vous, M. Buzel, quel appel à toute la chaîne, que ce soit les scolaires. On a voulu avoir les scolaires autour de nous pour débattre de la question. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Alors, quel appel à toute la chaîne pour une meilleure qualité de l'éducation dans notre pays?
Bien, mais l'appel que je dois lancer, c'est d'abord un appel à l'unité autour de notre système éducatif. Et cet appel à l'unité d'abord passe par la prise en conscience de tout un chacun de sa responsabilité, suivant sa sphère de responsabilité. Vous êtes étudiant, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de votre pays. Vous avez un devoir, c'est vrai, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est celui qui va, en tant que scolaire, leur permettre, comme nous venons de dire, vraiment de sensibiliser d'abord leurs différents militants, vraiment pour les efforts qu'ils payent. Les sensibiliser et encore davantage, vraiment faire en sorte que la compréhension prévale. S'il y a des revendications, que ce soit d'ordre corporatiste ou quoi que ce soit, qu'on privilégie le dialogue.
D'accord.
Et je pense avec le dialogue, je n'ai pas fini puisque c'est une question. J'ai commencé juste par un point. Maintenant, par rapport aux parents, aussi, c'est d'abord veiller à ce que les élèves puissent véritablement travailler parce que nous sommes en train d'assister à une dégradation de nos mœurs. On ne peut pas profiter d'une éducation tant qu'on n'a pas d'abord pu asseoir les bases d'une éducation et la préservation de nos us et coutumes, surtout la morale.
D'accord.
Par rapport à la société civile, je crois que c'est de continuer à appuyer, en tout cas l'autorité de tutelle, le ministère de tutelle, le ministère en charge de l'éducation, en fonction de tout ce que nous pouvons mener comme action, qui vont être un complément parce que nous venons à renfort.
Merci donc, merci bien. Oui,
vraiment, nous allons continuer dans la dynamique. Les portes de la ministre sont ouvertes. Les portes du ministère sont ouvertes.
Merci bien.
Et comme je l'ai dit, vraiment, nous allons continuer à créer les conditions d'un dialogue franc pour l'intérêt de l'école avec tous les partenaires.
Merci bien donc. C'est ici que prend fin cette émission. L'année scolaire 2023-2024 a été globalement calme avec des résultats assez satisfaisants selon nos invités présents ici. Donc à toute la chaîne, que ce soit les scolaires, les acteurs de l'éducation, de s'impliquer pleinement pour faire de l'éducation un levier de développement au Niger. Nous étions avec El Hadj Idi Abdou, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Merci d'être venu. Monsieur Bizo Moussa, le président de la coalition nigérienne Asso EPT, merci aussi d'être venu. Les scolaires nigériens invités ne sont pas venus. Je suis Nafissa Adam Sirf à la modération. La technique a été assurée par Amina Hassan. À très bientôt sur le studio Kalongo. Au revoir.